Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Bonjour, des vignes noyées au sud, du Syrah au nord. En Europe, le vin est dans tous ses états, affecté par des épisodes de pluie extrême et de sécheresse prononcée qui se multiplient, comme l'annonçait d'ailleurs le groupe scientifique du GIEC dès son premier rapport en 1990. Chez les principaux producteurs européens, France, Italie et Espagne, la récolte de raisins est maigre. Dans ce dernier pays, qui assure 15,6% de la production mondiale, les vendanges auront été de courte durée cette année, mais ça n'empêche pas les experts de prévoir une qualité supérieure à celle de l'an dernier. Les explications de notre correspondante à Madrid, Diane Cambon.
Le mildiou provoqué par l'humidité, mais aussi la forte tempête de neige en janvier dernier et les gelées du printemps, ont réduit de 16,8% la production espagnole cette année. La vendange ibérique devrait tourner aux alentours de 38,93 millions d'hectolitres de vin et de moût. C'est surtout la région de Castille-La Manche qui détient la plus grande extension de vignobles au monde, avec 468 000 hectares, qui paye le plus lourd tribut avec une baisse attendue de 20%. Toutefois, selon l'Observatoire espagnol du marché du vin, la qualité s'annonce cette année bonne, voire excellente. Les vins de la Rioja, dont la vendange a commencé plus tôt que prévu, pourraient réserver par exemple de très bons crus. Mais ce qui enchante également le secteur est la forte demande après une année de pandémie, marquée par la fermeture de l'hôtellerie et la restauration. Depuis le début de l'année, la demande a augmenté de 20%, sans toutefois produire une hausse des prix aux grandes dames des producteurs viticoles. Mais cette hausse de la demande devrait s'accentuer, notamment vers l'international, où les vendanges n'ont pas été aussi généreuses comme en France ou en Italie. L'Espagne aspire ainsi à conquérir de nouveaux marchés à l'étranger pour pallier le manque de vin des autres pays exportateurs.
En Europe, c'est le vignoble français qui est le plus touché par les intempéries et le secteur s'attend cette année à une chute de près de 30% de la production dans l'Hexagone. Là encore, c'est le parasite du mildiou dû aux fortes pluies qui est en cause, ainsi que les épisodes de gel tardif qu'ont connu certaines régions. Tout cela après 3 années de sécheresse consécutive. Alors, les viticulteurs commencent à revoir leur façon de soigner la vigne et à chercher des solutions pour s'adapter. C'est un reportage en Alsace d'Angélique Ferrat.
Alors là, on est dans une parcelle qui s'appelle Buchenstück et on vendange de Gewürztraminer. Ici, la consigne pour nous, c'est surtout de ne pas prendre des raisins qui ne sont pas mûrs. De temps en temps, on rencontre quand même des pieds où il n'y a pas la maturation souhaitée.
200 !
Dans ce domaine bio de 11 hectares, situé à Mittelwier, au nord de Colmar, au pied des Vosges, Valérie et son mari Benjamin Baumann-Zergel consacrent quelques jours par semaine aux 7 cépages cultivés en Alsace. Comme partout en France, cette année, le temps a été extrêmement pluvieux. Face aux attaques de mildiou, le viticulteur a dû traiter plusieurs fois avec du cuivre et des décoctions de prêles pour retarder ce champignon qui attaque feuilles et grappes. Sa récolte est plutôt bonne, malgré tout. Et sur 20 ans, Benjamin Baumann-Zergel a remarqué qu'il vendangeait de plus en plus tôt et que les étés chauds et très secs sont devenus un problème.
Il y a un travail agronomique à faire, hein, une protection du sol par exemple pour éviter qu'il chauffe de trop en été. Donc ne pas faucher l'herbe très court mais plutôt la coucher. Vous voyez dans le rond à côté par exemple, on a un bon paillis d'herbe qu'on a roulé et qui protège le sol parce qu'un sol nu en été peut vite monter à 50 degrés alors qu'un sol avec une belle protection reste frais. Et après, il y a aussi un travail au niveau du feuillage. Ces dernières années, on a plutôt tendance à laisser une protection, voire ne pas rogner pour que les pores du dessus de la plante fassent de l'ombre au pied suivant et que le raisin ne brûle pas.
À quelques 20 minutes de là, au sud de Colmar, Jérôme Bauer surveille ses cuves. Il a déjà rentré une partie de sa récolte. La fermentation a déjà commencé. Mais il fait grise mine. Il a perdu 40% de sa récolte à cause du mildiou. Le changement climatique, c'est notre quotidien, dit-il.
Le changement climatique, c'est irréfutable. Hein. Déjà, on vendange de plus en plus tôt. On doit faire face à de plus en plus d'aléas climatiques. L'année dernière, c'était la sécheresse. Cette année, c'est une pluviométrie excessive sur mon domaine. Au mois de juillet, on a enregistré à peu près plus de 600 mm de pluie de janvier à juillet. Normalement, on n'a même pas ça sur une année civile.
Devenu viticulteur en 1999, il a déjà dû changer sa manière de travailler en l'espace de tout juste 20 ans.
Notamment avec des semis de légumineuses et de couverts végétaux. D'abord, ils vont protéger le sol. La température du sol sera beaucoup plus fraîche que sur un sol découvert. On a de la fétuque, on a du pois, on a différentes sortes de légumineuses.
Alors, à quand des arbres au milieu des vignes pour protéger les vignes en dessous ?
Ben, ça vous fait peut-être rire, mais on y pense fort de plus en plus. Peut-être un palissage au-dessus de la vigne avec les feuilles pour protéger du soleil. Il faut explorer vraiment de nouvelles pistes aujourd'hui.
Une des nouvelles pistes, c'est de créer des vignes hybrides. L'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement de Colmar, croise des pieds de Riesling et Gewürztraminer, des cépages alsaciens, avec des variétés résistantes aux maladies comme le mildiou. L'Institut utilise notamment des vignes américaines habituées au mildiou, qui est une maladie endémique sur ce continent. Éric Duchesne, ingénieur de recherche à l'INRAE.
Là, on est devant une vigne qui vient du continent américain, donc qui est intéressante pour nous parce qu'elle possède beaucoup de gènes de résistance à l'oïdium et au mildiou. Donc son feuillage ici est quasiment intact, malgré la forte pression de maladie qu'on a eue cette année. Ben, si vous voulez, vous goûtez les raisins de cette plante.
D'accord, et vous... c'est bon ? C'est bizarre.
Donc le défi qu'on a, c'est que toutes ces vignes qui portent des résistances, enfin surtout des espèces américaines comme celle-là, Vitis rotundifolia, elles ont des raisins qui ont des arômes pour le moins inhabituels pour nous. Et donc, ils sont peu aptes à,
je confirme, c'est un peu amer.
À produire des vins de qualité. Donc, le challenge qu'on a, c'est de faire des croisements, donc des descendances, entre cette plante-là et des vignes européennes qui sont capables de faire du bon vin, et de combiner les gènes de résistance et les gènes de qualité des raisins dans une même plante.
D'accord. Vous ne goûtez pas, vous, hein ?
Non, je ne goûte plus.
D'autres chercheurs essaient de développer des vignes plus résistantes à la chaleur. Le réchauffement climatique ouvre aussi de nouvelles possibilités, surtout au nord de l'Europe. Ainsi, l'Allemagne a introduit la Syrah, une vigne typiquement du sud de la France. Des viticulteurs champenois ont planté des vignes dans le Kent, au sud de la Grande-Bretagne, pour produire du vin pétillant, made in UK. Cela n'est possible qu'avec l'augmentation des températures.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Faire du vin sous l'eau, une drôle d'idée, me direz-vous. Eh bien, c'est possible. Accent d'Europe vous emmène sur l'île d'Elbe. C'est en Italie, en Toscane précisément. Un vigneron y cultive depuis quelques années un vin pas comme ailleurs. Certaines de ses grappes de vin mûrissent en effet sous l'eau de mer au large de l'île. Une technique révolutionnaire qu'il a puisée dans la tradition grecque. Notre correspondant Olivier Bonnel s'est rendu sur place pour tout savoir sur ce nectar particulier, à savourer avec modération bien sûr.
Antonio Arrighi est la quatrième génération d'une famille de viticulteurs installés sur l'île d'Elbe depuis 1920. Son domaine est modeste, 8 hectares, mais ses vignes accrochées sur les hauteurs de Porto Azzurro, entre mer et montagne, s'étendent dans un paysage stupéfiant de beauté. Plus qu'un vigneron, Antonio est aussi un passionné d'histoire de son île, où la culture viticole remonte à l'Antiquité. Depuis 2010, sa cave porte d'ailleurs la trace de ce passé. À côté de ses cuves classiques en acier figurent en effet des amphores de terre cuite.
On a été parmi les premiers en Toscane à reprendre cette tradition très ancienne. En 2010, on a lancé une production à la fois en amphores et en barriques pour comprendre les différences. On s'est rendu compte que si la barrique micro-oxygène le vin, elle lui apporte aussi des substances, alors que l'amphore de terre cuite est neutre. Un vin qui vieillit en amphore va donc exalter tous les parfums et arômes typiques du cépage utilisé.
Le vin en amphore est né il y a 2400 ans sur l'île grecque de Chios. De là, les amphores de vin étaient chargées sur des navires en direction de Marseille, alors port de l'Empire romain. Elbe était une étape de cette caravane commerciale. Depuis, les liens entre l'île Toscane et ses cousines grecques ne se sont jamais démentis. Ce lien a pris une forme spectaculaire il y a 2 ans. Antonio s'est lancé dans la production d'un vin unique au monde, cultivé sous la mer. Pendant plusieurs jours, les grappes sont plongées dans des grands paniers en osier en forme de cloche, une technique inventée par les Grecs. Antonio a d'ailleurs baptisé ce vin marin « Nectar des dieux ». L'île d'Elbe étant située dans un parc naturel protégé, l'eau y est particulièrement pure. La première fois qu'il a immergé ses grappes dans l'eau cristalline de son île est un moment qu'Antonio n'oubliera jamais.
Nous sommes descendus au village et nous avons rejoint le ponton où nous attendaient les membres de l'école de plongée. On a commencé à descendre ses nasses avec le raisin à l'intérieur et tout le monde se regardait en demandant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Il est devenu fou, le raisin dans la mer. Il savait que j'aimais bien faire des expériences, mais que j'en vienne à plonger le raisin en mer, personne ne l'imaginait.
Le raisin qu'Antonio plonge sous la mer est de l'Ansonica, un cépage blanc typique de l'île d'Elbe. Sa technique révolutionnaire commence à attirer les curieux à Elbe, mais aussi bien au-delà.
Tous les touristes sont venus voir quel genre de poisson on avait pêché. Ils se sont retrouvés devant ces grappes de raisin. Je me souviens très bien du premier verre de vin que l'on a bu, en mars 2019, vendange de 2018. Cette émotion d'avoir créé quelque chose très similaire à ce que l'on buvait il y a 2000 ans. C'est un vin pur, ça a été une émotion unique.
La relève est aussi assurée avec Giulia, la fille d'Antonio, qui a suivi une formation d'œnologue et travaille depuis 5 ans dans l'exploitation. Giulia revient sur les caractéristiques de ce raisin qui lui permettent cette vie sous-marine.
Il a une peau très résistante et une chair croquante, ce qui lui permet de résister à l'eau de mer. En septembre 2018, on a cueilli notre raisin. On l'a mis dans ses nasses, qu'on a tout de suite placées sous la mer, à 10 mètres de profondeur, pendant 5 jours. Puis on a mis les grappes à sécher. Ce passage dans l'eau salée élimine partiellement la prune et permet de maintenir les arômes et toutes les saveurs.
La prune, c'est cette fine pellicule cireuse qui entoure le raisin. Le fait de plonger les grappes sous l'eau les nettoie en douceur et évite l'ajout de sulfite. Le nectar des dieux est ainsi un vin 100% naturel. L'an passé, Giulia a remporté l'Oscar vert des jeunes agriculteurs italiens décerné par la Coldiretti, le premier syndicat agricole du pays, dans la catégorie créativité, une récompense pour ce vin pas comme les autres. Un nectar des dieux plein de promesses, même si sa production reste encore confidentielle. 40 bouteilles seulement la première année, essentiellement bu jusqu'ici par des journalistes curieux de ce breuvage unique au monde.
Le goût n'existe pas sans l'odorat et les odeurs ont elles aussi leurs passionnés. En témoigne cette initiative incroyable lancée aux Pays-Bas. Des historiens, des experts en intelligence artificielle, des chimistes et des parfumeurs se sont donné 3 ans pour rédiger une encyclopédie du patrimoine olfactif européen. Ils vont recenser et identifier les odeurs les plus connues et les plus répandues du XVIe siècle à nos jours. Les senteurs sont de plus en plus présentes, par exemple dans les musées, aux côtés des œuvres d'art. Le parfum de Napoléon 4711 Haute Cologne a par exemple été resynthétisé et exposé au Rijksmuseum, où se trouve le tableau « La bataille de Waterloo ». Mais l'initiative dont nous parle notre correspondante Anne Leray va beaucoup plus loin, on l'écoute.
Il y a une odeur très particulière ici, je pense que c'est le bois. Ça me rappelle la crèche et ma petite enfance. Ce doit être la laque sur le bois. C'est vraiment un souvenir prégnant. J'ai l'impression d'être de retour à l'école.
Faire remonter des souvenirs et des émotions enfouies dans notre mémoire au seul contact d'une odeur qui nous a été familière. Avec cette belle entrée en matière, Caro Verbeek, spécialiste de l'art olfactif, nous montre l'un des pouvoirs de l'odorat. Projet inédit et complexe, Odoropa s'est posé une question simple. Dans quel environnement olfactif vivaient nos ancêtres? Et comment les odeurs ont été ressenties et représentées au fil du temps? En s'appuyant sur l'intelligence artificielle et sur l'exploitation des data, des chercheurs de 7 pays européens analysent des milliers de textes, d'œuvres et d'images pour identifier les références aux odeurs et les faire parler.
L'odorat est souvent une part oubliée de notre patrimoine. C'est pourtant une partie de notre héritage matériel et immatériel. Les odeurs disparaissent, de même que les mots que nous utilisons pour les décrire. Avec l'aide des ordinateurs, mais aussi de l'expérience humaine, nous essayons de retrouver les odeurs du passé. Un aspect très important de ce projet est que nous ne voyons pas seulement des images qui représentent des odeurs, Nous ne lisons pas seulement des choses à propos de ces odeurs, mais nous pouvons véritablement sentir dans les musées des odeurs oubliées de villes ou d'usines. Cela veut dire qu'avec l'analyse de gaz chromatographique et en travaillant avec des parfumeurs, les technologies et l'artisanat, nous recréons certaines senteurs et les gens peuvent alors véritablement respirer le passé.
Sentir la part volatile du passé, une utopie qui devient réalité. Chimie analytique et chimie moléculaire sont mises à contribution et les échantillons recréés voyagent dans plusieurs musées européens pour amplifier les expériences immersives. Notre odorat, en général peu sollicité dans les expositions, trouve ainsi de quoi se mettre activement au travail.
Nous sommes tous d'accord sur l'importance des odeurs et ce qui est vraiment dommage, c'est que nous n'éduquons pas notre nez. Nous n'apprenons pas à sentir, à analyser certaines odeurs, à établir une relation entre la santé et les odeurs, par exemple. Nous apprenons le nom de chaque couleur, de chaque forme dès la crèche, mais nous devrions nous familiariser davantage avec les odeurs qui nous entourent pour rendre notre odorat plus savant.
Depuis mars 2021, Caro Verbeek est à la tête de la collection Mondrian au Kunstmuseum de La Haye. Elle est connue pour son approche sensorielle de l'histoire de l'art et les œuvres du peintre néerlandais lui ont justement inspiré un nouveau projet.
Ma prochaine ambition serait de recréer l'odeur des œuvres d'art abstraits. Est-ce qu'on peut traduire un Mondrian avec un parfum? Est-ce qu'on peut atteindre les mêmes émotions, la même qualité formelle d'horizontalité et de verticalité et restituer le parfum des couleurs primaires? Je pense que c'est possible.
En attendant de pouvoir respirer l'abstraction, pourquoi ne pas se rendre à l'une des soirées Odorama organisées par le site Médiamatique à Amsterdam et imaginées par la très créative Caro Verbeek? On vous donnera à sentir les parfums des nuits d'été ou encore les odeurs que produisent les animaux pour marquer leur territoire. La diversité de notre patrimoine olfactif passé et contemporain en fait un sujet inépuisable. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very much.
Musique.
Et c'est avec Vincent Théval comme tous les vendredis. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Si mes informations sont bonnes, vous nous avez apporté aujourd'hui de la pop espagnole.
Le groupe madrilène Interrogación Amor est l'une des valeurs montantes de la scène pop espagnole et confirme cet automne tous les espoirs placés en lui l'an passé à la sortie de son premier album, étonnamment titré Vomito y Mariposas. Le groupe était alors un quartet et accueille aujourd'hui deux membres supplémentaires, mais aussi pas moins de sept chanteuses différentes pour une relecture de son premier disque dont le titre s'inverse pour l'occasion et devient Mariposas y Vomito. Le changement est aussi musical, puisqu'à la pop à guitare développée jusque-là par Interrogación Amor, s'ajoutent aujourd'hui les sonorités plus synthétiques du R&B, comme sur leur tube Chicas Guapas. Te quiero besar, o tirarme de un quinto, con solo hablar, me tienes loquito, carita de ángel, vestido Versace, el suelo empapado. De tanto llorarte, mami, no sé tú qué tienes. Antes de dormir, tú siempre me dueles. Mami, no sé tú qué tienes. Antes de dormir, tú siempre me dueles. Siempre pienso que eres guapa cuando pasas por mi plaza montada en tu moto. Mi corazón roto. Cara, quédate a solas conmigo, aprieta el gatillo y dispara. Hola. Chicas Guapas du groupe espagnol Interrogación Amor, une chronique de Vincent Théval à retrouver tous les vendredis dans Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot. Vous pouvez bien sûr la podcaster sur le site de la Radio du Monde, RFI.fr, et pourquoi pas vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt. Siempre pienso que eres guapa cuando pasas por mi